rendez-vous des entrepreneurs tous les lundis à midi et en rediffusion les samedis à 8h et à 13h sur Radio Arverne.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Arverne dans ce rendez-vous des entrepreneurs avec aujourd'hui un rendez-vous particulier, un grand honneur puisque je reçois Lila Forcade qui est déléguée générale de l'Orchestre National d'Auvergne. Lila, bonjour.
Bonjour Marie-Luce, bonne année.
Merci, oui, nous avons encore le droit de nous le dire effectivement en se souhaitant le meilleur. Hein, le meilleur et vous allez je pense nous dire aussi ce que va être le meilleur pour ce bel orchestre national, j'insiste là-dessus, d'Auvergne. Ça ne se sait pas toujours. Alors, on va peut-être parler d'abord de vous, Lila, un petit peu, parce que vous êtes souvent dans l'ombre, mais vous êtes devenue une pure Auvergnate. Alors, oui. Racontez-nous un peu votre parcours qui vous a amené à prendre ce rôle au sein de l'orchestre.
Écoutez, c'est une rencontre avec cet orchestre et qui a été l'origine de tout. J'étais en poste à Paris, dans un bel orchestre parisien, et il y a eu cette rencontre, cette connexion avec le chef d'orchestre actuel, Roberto Forest-Vesses, je dois dire qu'il m'a vraiment encouragée à postuler. Et je l'ai fait sans croire que ça pourrait... Et puis voilà, quand ça doit arriver, quand les planètes s'alignent, ça se passe comme ça. C'est toute une aventure. J'ai embarqué tout le monde, toute la famille en Auvergne. Et on a démarré une nouvelle vie. Ça va faire bientôt presque 6 ans.
Et une nouvelle impulsion que vous avez aussi amenée à cet orchestre.
Avec plaisir, je dois dire, parce que c'est que du plaisir. Cet orchestre, ce sont des personnes qui sont passionnées, engagés, qui sont prêts à tout, et quand on travaille dans cette dynamique-là, dans cette envie, il n'y a pas de frein, on avance et on fait plaisir, c'est voilà.
Alors surtout avec les mois que nous venons de vivre, le plaisir il a été forcément compliqué à partager, mais racontez-nous l'histoire de cet orchestre qui était orchestre d'Auvergne initialement, puis après qui est devenu national.
Oui, alors Depuis sa création, on va bientôt fêter les 40 ans de l'orchestre. L'orchestre a toujours été reconnu à l'étranger, même en France, parmi ses pairs, pour être très valeureux, j'allais dire, pour ce jeu excellent, cette recherche d'un son qui est particulier. Et là, il y a 2 ans, 3 ans même, on a décidé de lorsque le gouvernement, la ministre de la Culture de l'époque, c'était Aurélie Filippetti, ils ont mis en place un nouveau décret pour définir ce qu'est un label national. Et nous avons monté un dossier et on a défendu la cause de l'orchestre et on répondait à tous les critères pour être label national. Et ça a été Franck Riester qui nous a accordé le label national en janvier 2019. Voilà, donc c'est une reconnaissance. C'est très important pour cet orchestre parce que, bon, nul n'est prophète en son pays, évidemment. Mais bon, petit à petit, je crois que les gens commencent à entendre parler de l'orchestre ici. Mmh. Et on espère qu'ils seront fiers, comme de l'ASM.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui avait impulsé il y a 40 ans cette création, au final? C'est comme une création d'entreprise.
Alors, il y a eu le plan Landowski il y a une quarantaine d'années. Hein, c'était Marcel Landowski qui a lancé ce plan de création d'orchestre partout en France. Et en Auvergne, c'était Maurice Pourchon, je pense, qui était président de la région à l'époque, qui a démarré cette discussion. Et c'était en novembre 81. Et il y a eu le premier concert en mai 82, voilà. Et ensuite, le président Giscard d'Estaing a beaucoup, beaucoup aidé l'orchestre et soutenu à des moments difficiles. Donc, ça a permis de perdurer. Et puis, on a eu un grand chef d'orchestre, Jean-Jacques Kantorov, qui est venu et qui a contribué à vraiment donner ses lettres de noblesse à cet orchestre, qui l'a fait voyager dans le monde entier. C'est un grand violoniste et qui a créé cet esprit. Il a fait venir des musiciens d'un peu partout dans le monde. Et voilà, donc c'est comme une tradition qui s'est créée. Avec des violons solos à chaque fois, très forts. Dans un orchestre, le rôle de violon solo, c'est un peu le capitaine. Voilà, c'est après le chef d'orchestre, hein, c'est lui qui est là, qui est adoubé par tous les musiciens. Et on a eu des personnes comme Svetlin Roussev, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Gordan Nikolic, Amaury Couetto, qui ont tous été violon solo à l'orchestre et après qui ont fait des carrières, voilà.
Alors avant d'être ONA, Orchestre National d'Auvergne, donc Orchestre d'Auvergne au départ, et pourtant déjà une dimension qui était internationale.
Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Hein. L'orchestre a beaucoup, beaucoup voyagé. Il a été au Japon plus d'une quinzaine de fois. Et donc, il y a une reconnaissance. Et aussi, ce qui a contribué à cette reconnaissance internationale, c'est cette politique discographique très forte et avec des enregistrements qui ont fait date. Des enregistrements où vraiment on pouvait... entendre ce son particulier, cette recherche de son. Et ça, quoi qu'on puisse dire, c'est cette mentalité dans cet orchestre qui est unique, avec des gens passionnés. C'est toujours la passion qui fait avancer. Et ces musiciens, ils vont travailler. S'il faut travailler plus, ils ne vont pas mesurer leur temps. Ils le font par amour de la musique, hein, vraiment, et du travail bien fait. Et aussi pour ce sens collectif. C'est quelque chose qu'on entend souvent des musiciens invités, des chefs d'orchestre invités. C'est ce sens du travail collectif. C'est une équipe. Et donc là, avec ce Covid, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup. Ça a été très compliqué là, pendant le premier confinement.
Alors qu'il y avait eu pourtant vous avez essayé des expériences de collaboratives, des échanges, il y a eu beaucoup, beaucoup.
Mais on arrive à un moment donné, voilà, on en a marre du streaming au bout d'un moment, on a besoin de se voir en vrai, de jouer ensemble. C'est comme toutes les activités collectives, je pense aux sportifs aussi, c'est très difficile. Hein, on progresse en étant ensemble. On peut pas. L'art, c'est beau tout seul, mais à plusieurs, là, c'est vraiment. Ça prend son sens, hein, c'est décuplé. Alors, pendant le premier confinement, ils ont été très créatifs. Il y en a qui se sont équipés à la maison, ils se sont. Enregistrés, filmés, postés sur les réseaux sociaux. Alors à chaque fois, tout le monde applaudissait, dit « ouais, c'est super, c'est encouragé les uns les autres ». On a créé un groupe WhatsApp pour se parler, s'encourager. Et puis après, ils ont commencé à sortir de chez eux, aller dans les EHPAD. Ouais. En extérieur, heureusement, c'était le printemps, c'est pas trop froid. Donc là, ils ont joué... ils ont proposé, là, ils ont offert d'aller jouer seuls... ou à deux, ceux qui habitent, qui sont en couple, voilà, ils allaient jouer dans les EHPAD. Après, il y a eu le déconfinement, on a essayé d'organiser ça un peu mieux pour qu'ils aillent jouer dans les EHPAD, mais c'est d'une complication. Hein.
Il y a eu quelques spectacles quand même qui ont pu avoir lieu.
Voilà, il y a eu une petite reprise en août, avec quelques concerts en août, parce que tout avait été annulé en août. Et après, vu qu'il y a eu un déconfinement, il y en a qui ont reprogrammé ce qu'ils avaient annulé. On est dans la période du faire et défaire.
Ça demande une agilité, y compris dans des secteurs qui sont, on pourrait dire, plus complexes à manœuvrer, parce que c'est quand même un gros navire, l'Orchestre National
d'Auvergne. Oui, c'est ça. Il faut rester calme, résilient, de bonne humeur. Ça ne sert à rien de s'énerver. De toute façon, voilà. Donc on fait comme ça, on essaie, on voit au jour le jour, en essayant d'anticiper, puis ça se fait pas, ça se défait, ça se refait. Là, on a pu jouer en octobre nos concerts d'abonnement. Ça a été extraordinaire. On était très très heureux. Et on a pu faire encore quelques concerts en octobre, mais pas beaucoup. On avait notre série pour les jeunes publics, malheureusement, qui a dû être annulée parce que notre Alasdair Malloy, qu'on adore, qui fait ses animations, ne pouvait pas venir parce qu'il était confiné, une quarantaine trop... Voilà. Et après, bon, bah, vous savez qu'en 30 octobre, on a été confinés. Après, on a fait... Heureusement, on pouvait travailler sans public. Donc, on a organisé des... on a fait une action, on a appelé ça le concert solidaire. On ne pouvait pas faire de concert. On a fait monter un programme et on a dit on va l'offrir aux EHPAD et aux maisons de santé avec un lien internet qu'on a fourni. Et je crois que là, on a fait ça sur tous les départements d'Auvergne. Il y avait, on a environ 159 établissements qui ont pu bénéficier de ce concert privé, si on peut dire. Ça nous a apporté beaucoup de joie et les musiciens étaient heureux de faire ça aussi. Et puis, en décembre, on a eu un premier enregistrement qui a été annulé parce qu'on avait un cas contact. On l'a reporté. On a annulé un autre, on a refait un autre à la place. Oui, parce qu'on a pensé, on a reprogrammé un concert. Vous vous souvenez de cette date du 15 décembre où on devait avoir les 5000 cas. Donc tout le monde a dit oui, on va y aller, on les aura. Je dis, vous êtes sûrs? C'est... Puis paf, patatras, on ne les a pas eus. Donc le concert qui avait été annulé, le concert de Noël qui a été annulé, il a été reprogrammé, puis après réannulé. Mais tout le monde prend ça avec patience. Et du coup, en une journée, on a reprogrammé un enregistrement qui avait été annulé en septembre. Donc on a fait ça en décembre. Et là, on a eu des concerts annulés en janvier. Et on est en train d'enregistrer un très, très beau programme de musique française qui avait été commandée par Jeanne Évrard. Je ne sais pas si vous connaissez Jeanne Évrard. C'était la première femme chef d'orchestre professionnelle qui a créé son propre orchestre féminin. Ça s'appelait l'Orchestre Féminin de Paris. D'accord. En 1930. Et c'était un orchestre à cordes comme le nôtre. Et elle a commandé des œuvres pour son orchestre et à des compositeurs très connus. Donc il y avait Roussel, donc là il y a une œuvre de Roussel, il y a Jean Rivier, c'est absolument magnifique, c'est très peu connu. Et voilà, donc on sortira cet enregistrement quand il sera prêt, ça fera partie de nos projets futurs.
Alors Radio Arverne, c'est une radio musicale, donc pendant cette pause maintenant que nous allons proposer à nos auditeurs, je pense Lila que vous allez nous faire écouter justement ce son si particulier de l'Orchestre National d'Auvergne. Alors qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire entendre ?
Alors j'ai choisi les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Dans une version pour orchestre à cordes, arrangée par un violoniste russe qui s'appelle Dimitri Sitkovetsky. C'est une très très belle version. On connaît les variations Goldberg, c'était écrit pour clavecin. La plus célèbre, il y a eu beaucoup de musiciens connus, mais la plus célèbre c'est par Glenn Gould, bien sûr. Cette version, nous l'avons enregistrée pour notre label Digital Live. J'en profite pour dire qu'on a créé on est le seul orchestre à ce jour. Hein. Ça ne va pas durer, mais seul orchestre et premier orchestre en France à avoir créé son propre label Digital Live. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est comme un label discographique, mais on n'en produit pas de disques, on met nos enregistrements de concerts en direct, ça s'appelle live, sur toutes les plateformes musicales. Et donc là, on a fait venir un grand spécialiste classique, un pianiste qui s'appelle Robert Levin, qui a coaché l'orchestre, et c'est notre violon solo Guillaume Chilem, qui est merveilleux, qui joue et qui dirige l'orchestre dans cet extrait des Variations Goldberg. Les Variations Goldberg, ça s'appelle Goldberg parce que c'était un élève de Bach qui s'appelait comme ça, et il les a jouées. Alors il y a une légende qui dit que c'était pour un comte russe qui était insomniaque et qui voulait une œuvre pour passer la nuit, qui soit divertissante. Bon, après quand on regarde la chronologie, c'est un petit peu une légende. Je crois la dédicace de Bach sur la partition, c'est pour les amateurs et pour le divertissement de l'esprit, quelque chose comme ça. Et cette musique, elle est merveilleuse, on ne s'en lasse pas. Et je pensais que c'était bien. C'est une musique qui peut être introspective et en même temps qui a des cycles. Il y a des danses, des fugues, on retrouve le même thème et c'est très très beau.
Eh ben on va l'écouter et écouter ce son si spécifique de l'Orchestre National d'Auvergne. Et nous nous retrouvons dans quelques minutes sur Radio Arverne.
Sur Radio Arverne.
Radio Arverne, nous recevons cette semaine Lila Forcade, déléguée générale de l'Orchestre National d'Auvergne. Après cette pause musicale assez magique et le partage de ce son de l'Orchestre National, vous nous en parliez tout à l'heure, Lila. Et ce son, l'ONA le fait partager au monde entier et vous avez fait récemment, ça a été je crois la dernière tournée même que vous avez faite en Amérique du Sud. Alors ça a été, je me rappelle avoir suivi vos pérégrinations sur Facebook, c'était un moment bouleversant d'émotion. Racontez-nous ça.
Oh, alors d'abord, c'est vrai que c'était un long périple, on a traversé 5 pays différents. Même plus, parce qu'on a dû faire des escales improvisées avec des avions porteurs qui n'étaient pas assez gros pour transporter les instruments, les contrebasses. Ça, c'était des petits détails de l'organisation. Mais on a eu beaucoup, beaucoup d'émotions à jouer dans ces pays, à retrouver une communauté de mélomanes et avec des infrastructures sur place qui sont...
Oui, des salles de concert qui étaient extraordinaires, semble-t-il.
Oui, voilà, on peut les envier, on peut dire. Les musiciens étaient vraiment d'abord très admiratifs, très agréablement surpris. Et puis, surtout, c'était du plaisir. C'est du plaisir de pouvoir jouer dans une acoustique qui est porteuse, qui est faite pour ça. Voilà, donc là, on est allé à Lima d'abord. Ensuite, on est reparti le lendemain pour Quito. Alors, Quito, on a eu des surprises avec d'abord des personnes qui ont eu des problèmes d'intoxication alimentaire, conjuguée avec l'altitude de Quito. Hein, c'est très, très haut. Ça crée des malaises. Donc, j'ai eu... le service de SAMU, moi j'ai passé le concert dans une camionnette avec des pompiers, sans parler.
Moins plaisant en termes de sonorité.
Très très bien, voilà, avec beaucoup d'inquiétude parce qu'on repartait le lendemain matin à 5h pour Buenos Aires. Et on ne savait pas, on avait une personne qui était pas en forme, hein, vraiment. Voilà, bon, ça, tout s'est bien passé, on a été avec de bonnes étoiles qui nous ont accompagnés. à Buenos Aires. On était en résidence pendant 5 jours avec l'Institut français, l'ambassade de France. On a eu un premier concert au CCK. Le CCK, c'est le Centro Cultural Kirchner. C'est l'ancienne poste, c'est un bâtiment énorme de poste, de la poste qui a été transformé dans un lieu culturel et qui est ouvert au public. Il y a plusieurs étages et au milieu, ils ont gardé les galeries et au milieu, ils ont construit un auditorium. Et ça fait comme une baleine. On voit le ventre de la baleine qui fait un plafond. Et là, tous les concerts sont gratuits. C'est la politique culturelle locale. Ça, c'est pas mal aussi. Mmh. Hein. Et c'est tout le temps plein. Et on a joué dans une salle de 5000 places. Et c'était plein. Et c'était des gens debout. C'était vraiment très, très fort. On a refait un concert là pour des enfants, des jeunes, des ados. Et Roberto Forest Vesès et les musiciens ont fait des jeux sur scène. C'était extra, vraiment formidable. On est allé aussi avec une musicienne que vous connaissez, Aurélie Chenille. On est allé dans le quartier de la Boca à la Casa Rafael. Casa Rafael, c'est une maison pour accueillir des enfants des quartiers populaires, des enfants qui sont malmenés par la vie. Et cette femme qui est française, béarnaise, comme moi d'ailleurs, elle a fait quelque chose, ça fait depuis 30 ans qu'elle est partie là-bas et elle a réussi à monter ce programme social pour aider les jeunes enfants avec des activités artistiques. Et là, on a fait un atelier musical, on a montré le violon, il y en a certains qui apprennent déjà, c'était vraiment très très fort. Et puis, voilà, on a fait un petit concert à l'ambassade de France aussi. Et ensuite, on a continué, on est allé à Cordoba, un peu plus dans les terres. On a eu un concert dans un théâtre classique du 19e avec la société locale. C'était très amusant, tout à fait charmant et un accueil toujours très, très chaleureux. Et enfin, on a terminé notre tournée à Punta del Este, c'est en Uruguay, voilà, au bord de la mer. C'était agréable. On a passé un moment. On était fiers de représenter l'Auvergne et la France, et on peut dire que les musiciens s'en sont pas mal sortis. Hein. Il y a eu des très bonnes critiques, très bel accueil.
Et du coup, ce rayonnement français, ce rayonnement auvergnat que vous portez au travers de tous ces déplacements, vous disiez tout à l'heure qu'il a du mal à être connu, reconnu sur notre territoire, pas assez reconnu. C'est quoi votre sentiment là-dessus ?
En fait, vous savez, quand on a une passion, on a du bonheur à la partager. Et notre art, la musique, c'est un art qui est généreux pour moi. Ça marche que si on peut le partager, on peut l'offrir. Et donc la notoriété de l'orchestre dans les milieux mélomanes, elle n'est pas à faire. Évidemment, ils connaissent cet orchestre et ils l'aiment beaucoup. Mais je trouve que ça serait intéressant de pouvoir en faire profiter d'autres personnes. Parce que je suis convaincue que c'est bénéfique. La musique, c'est un art qu'il faut donner, partager. C'est comme ça qu'on se nourrit, nous aussi. Hein, et les musiciens, eux, ils ont encore plus besoin du public. Et si on pouvait le transmettre à un public plus large, un public de jeunes ou de gens qui n'ont pas accès à la culture, ça serait, c'est un vœu.
Il y a un frein matériel aujourd'hui qui contraint en termes de... Alors, on va exclure cette période de Covid, on le sait, c'est, voilà, on n'en parle pas. Dans un monde meilleur, où tout le monde pourrait de nouveau sortir et se retrouver dans des salles, c'est le nombre de places qui est un frein. Qu'est-ce qui empêche ce partage qu'attendent vos musiciens ?
Alors, en fait, c'est pas un frein matériel, c'est culturel. Il faut qu'on se... C'est dans les idées reçues, en fait. Les jeunes, les gens qui ne connaissent pas la musique classique ont peut-être des a priori ou des préjugés. Peut-être qu'ils ont peur, de même que certains ont peur de rentrer, de pousser la porte d'un théâtre. Ils se disent « Oh, c'est pas pour moi » ou... Et ça c'est une fausse idée que nous devons combattre et changer. Et donc, il faut qu'on arrive à nous adapter et à trouver un discours qui plaise, qui convainc et qui donne envie de découvrir. Alors on essaie de s'adapter. Par exemple, on a créé ces Midnight Concerts. On a complètement décalé le... Vous savez, hein, on fait les concerts... Vous avez essayé ou pas, Marie-Luce ?
Non.
Il faut le faire.
Et non, parce que nous vivons une vie un peu particulière. Hein, et ça fait... assez peu de temps, au final, que vous aviez commencé à faire ça.
Oui.
Et au moment où nous les avons découverts au sein de Phébus Communication, eh bien, c'était le confinement. Voilà.
Ouais. Bon, mais c'est partie remise.
Mais allez, dès qu'on peut, on vient. Racontez-nous ces Midnight.
Alors, en fait, ce sont des concerts, déjà, qui sont à un horaire décalé. On voulait faire minuit, mais bon, on a coupé la poire en deux pour faire simple avec tous les personnels techniques, etc. C'est 22 heures. C'est un concert qui est court, donc on ne peut pas avoir peur d'être enfermé trop longtemps avec quelque chose qu'on n'aime pas. Ça dure 30, 40 minutes maximum. Et après, on propose aux gens de venir avec un coussin ou un oreiller. Ça se passe allongé sur la scène.
La scène de l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand.
Oui, mais pas toujours, parce que maintenant, on va à la Copée aussi, je vais vous en parler. Mais le principe, c'est qu'on a ces gros coussins, je ne dis pas la marque pour ne pas faire de pub,
non.
Des gros coussins dans lesquels on s'allonge et qui sont répartis autour des musiciens et même au milieu. Et on ressent les vibrations très fortement, parce qu'on est à côté. Ouais. L'éclairage est tout à fait tamisé. Les musiciens travaillent avec des lampes de pupitre. Et donc, on a une vue spectaculaire qu'on n'a jamais sur la charpente du théâtre, avec les éclairagistes qui font des belles lumières. Et c'est un moment, je dois dire, les mélomanes ont compris qu'on est obligé d'un peu de freiner, parce qu'on veut faire venir ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent la musique, ils ont repéré...
Ils ont compris
qu'il y avait un bon filon, là. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et on peut s'endormir si on veut. Tout est permis. On peut se déchausser, on peut utiliser son téléphone, son smartphone. Il y en a qui sont en couple, qui sont enlacés. Tout est permis. On essaie de casser les codes.
C'est un peu privilégié comme moment, parce que ça veut dire que l'on peut être assez peu nombreux sur scène quand même.
Alors oui, ça c'est vrai que la sécurité nous impose de ne pas dépasser 90 personnes. Mmh. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le parterre de l'orchestre et les gens peuvent venir. Alors c'est pas tout à fait la même expérience. Mmh. Mais c'est quand même pas mal d'être au parterre de l'orchestre, dans le noir. On peut aussi apprécier et avoir une idée et puis s'organiser pour la fois suivante. Et alors, on a la coopérative de mai avec cette structure avec laquelle on aime beaucoup travailler, qui était intéressée. Et on a fait l'année dernière un concert chez eux, un midnight concert, après, en deuxième partie d'un concert dans la Petite Copée, un concert de musique actuelle. Et là, on avait notre public qu'on veut toucher, qui était là sur place. Et ils avaient juste à sortir d'une pièce pour aller dans l'autre et s'allonger. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on leur fait... Ils n'ont pas cette peur d'aller de ce frein. Voilà. Et puis on travaille avec les jeunes, avec l'université. Il y a un programme qui s'appelle « Je peux pas, j'ai opéra ». Ce sont des jeunes qui sont en master et chaque année qui réfléchissent sur la manière de développer les publics. Et donc, ils essaient de faire venir... Leurs congénères étudiants, ils font de la pub pour tester. On est allé jouer au Crous aussi l'année dernière. C'était surprenant. Pas très confortable pour les musiciens, il faut dire, hein, avec les allées-venues des gens qui vont déjeuner au Resto U. Mais on a capté pas mal de monde. Voilà.
Alors pour conclure, parce que Lila, je l'avais dit en démarrant, on va parler de passion avec une passionnée, et c'est ce qu'on vient de faire pendant cette demi-heure. On va se souhaiter tous ensemble que ça y est, cette vaccination nous amène au bout de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est quoi le projet ou les projets majeurs de l'Orchestre National d'Auvergne en 2021?
Ah là là, on a un grand projet là. On va. Je vous ai parlé du label digital. Eh bien, en 2021, on va créer notre propre label discographique. Donc, on va être les premiers en France, seul orchestre à avoir son propre label discographique. Et le premier enregistrement qui va sortir, on va faire un test sur des vinyles et des CD. On va sortir ça. Voilà, donc ça va être une grosse étape. Et puis on a un nouveau projet artistique qui démarre à l'automne 2021.
Ben écoutez, on va vous souhaiter le meilleur à vos musiciens, votre chef d'orchestre qui est un homme absolument extraordinaire. Et puis nous nous retrouverons très bientôt sur Radio Averne avec toujours des entrepreneurs et des parcours exceptionnels et passionnants. À très bientôt, restez fidèles à Radio Averne.